Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, je suis très bien accompagnée dans ce studio. Il est à mes côtés tous les jours, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, nous allons nous pencher sur le lien entre alimentation et maladies inflammatoires chroniques, type psoriasis, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou encore polyarthrite rhumatoïde. L'alimentation est en effet au cœur du quotidien des patients touchés. Même si elle n'influe pas sur le cours de ces maladies, elle pourrait jouer un rôle sur leur sévérité, qui sait, ou la fréquence des poussées. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner les clés du manger sans s'enflammer. C'est possible, et pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevrons le professeur Laurent Perrin-Biroulet. Il est professeur de gastro-entérologie au CHRU de Nancy. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, focus cet après-midi sur un accident redoutable chez ces messieurs, le plus souvent chez des jeunes hommes, justement, la torsion testiculaire. Quels sont les symptômes? Que faut-il faire si cela arrive? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous dira s'il est si important que ça d'éduquer ses enfants à certaines questions autour de la sexualité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer l'émission par cette question de Claire. Écoutons-la.
Bonjour Jimmy et Mélanie, je viens vers vous parce que j'ai 18 ans et je sais que ma question peut sembler un peu futile, mais je commence à avoir de la cellulite et des vergetures alors que, comme j'ai dit, j'ai que 18 ans et ça m'inquiète un peu, donc je me demandais si je devais consulter, si c'était normal. Merci beaucoup pour vos réponses, au revoir.
Alors pour vous répondre très clairement, nous avons interrogé pour vous une spécialiste du sujet, c'est le docteur Marie Jourdan, elle est dermatologue et membre de la Société française de dermatologie.
La cellulite et les vergetures, c'est deux particularités qui sont très sensibles aux mouvements hormonaux. Et il faut savoir que la cellulite, 90% des femmes en ont. Les vergetures, elles, sont pas uniquement liées à un phénomène mécanique de prise de poids, d'étirement de la peau. C'est là aussi lié à un afflux ou à un mouvement d'hormones féminines dans la peau. Autour de 18 ans, c'est justement une de ces périodes de mouvements hormonaux où on peut retrouver cette situation. On la retrouvera d'ailleurs lors d'autres mouvements hormonaux, de grossesse, de changement de pilule ou de ménopause, par exemple. Cela dit, pour lutter contre la cellulite disgracieuse sur le plan esthétique, il est bien sûr recommandé de pratiquer du sport régulièrement et de manger sainement. Mais si elle s'accumule très rapidement au début et reste longtemps inflammatoire et rougeâtre, il est possible de limiter leur progression et de les calmer très vite avec du laser vasculaire.
Voilà, c'était le docteur Marie Jourdan au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va prendre une deuxième question, celle d'Alexia qui nous a été posée sur Instagram. Je vous la lis. Doit-on se faire vacciner en ayant déjà eu la Covid-19 et quand on a un taux d'anticorps qui augmente même après 6 mois après l'infection? Jimmy, quelles sont les recommandations aujourd'hui en la matière quand on a eu le Covid ou la Covid? Le vaccin, c'est combien de temps après?
Alors, on considère que si jamais vous avez eu le coronavirus, à savoir une PCR positive ou une sérologie, eh bien, il faut attendre un délai minimum de 3 semaines avant de vous faire 3 mois, pardon, avant de vous faire vacciner. Et dans l'idéal, 6 mois. Pourquoi? Car on pense que l'immunité conférée par la maladie va durer au moins 6 mois et qu'on va pouvoir, dans l'intervalle, vacciner des personnes qui n'ont pas eu la maladie et qui vont peut-être tomber malades. Donc, on considère que si possible, il faut attendre 6 mois, même s'il va y avoir des variations entre les personnes. Certains vont certainement avoir des anticorps pendant très longtemps et d'autres un peu moins longtemps.
Mais on ne peut pas savoir, effectivement, il n'y a pas de règle. Alors, c'est une dose, je crois, en revanche, pour ces gens-là, ceux qui ont déjà eu le coronavirus.
Dans l'état actuel des connaissances, c'est une dose. Mais il est possible qu'à l'automne ou à l'hiver prochain...
C'est toujours comme ça en ce moment. C'est aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça sera peut-être différemment.
Et c'est vrai que ça porte pas mal de confusion. Et les patients ont beaucoup de questions. On nous parle de 3e dose. Mais déjà, là, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque vous avez eu le coronavirus, on considère qu'une dose est suffisante pour l'instant. Et on pense malgré tout que les anticorps vont petit à petit diminuer et qu'on sera obligé de faire une forme de rappel à l'automne ou à l'hiver prochain.
D'accord. Alors, ceux qui auraient peut-être un doute, d'ailleurs, à savoir s'ils ont déjà eu le Covid ou pas, en mars, avril dernier, tous les cas suspects n'étaient pas forcément testés. Il faut faire une sérologie avant, du coup, si on envisage, là, maintenant, de faire le vaccin ou pas.
Alors, moi, c'est très simple. On ne va pas faire des sérologies pour chaque patient qui doit se vacciner. On va faire 50 millions de sérologies. Ce n'est pas viable et surtout, ça n'a aucun sens. On fait les choses de façon très pragmatique. Lorsque le patient vient se faire vacciner et qu'il pense avoir eu le coronavirus, il lui demande « Avez-vous eu une PCR positive ?» Oui ou non? Avez-vous eu une sérologie positive? Oui ou non? S'il n'y a ni l'un ni l'autre, eh bien moi je considère qu'il ne l'a jamais eu.
Et vous vaccinez.
Même s'il pense avoir eu une espèce de rhume qui recharge, cet embryon vaccine, puisque finalement, il n'y aurait pas de risque à se faire vacciner malgré une infection plus ancienne. Donc, au contraire, on serait peut-être mieux protégé.
D'accord. Et c'est normal d'ailleurs de ce qu'elle décrit, puisqu'elle dit, moi, j'ai eu le Covid et j'ai un taux d'anticorps qui continue d'augmenter 6 mois après. Donc, apparemment, elle fait des sérologies régulièrement. Pendant combien de temps, en moyenne, même si j'ai bien compris, il n'y a aucune règle, ça peut monter encore ce taux d'anticorps?
Alors, vous l'avez dit, ne faites pas des sérologies régulièrement, ça n'a aucun sens, car n'oubliez pas qu'il y a les variants qui redistribuent les cartes. Vous avez le droit d'être protégé avec le premier coronavirus, en quelque sorte, et tomber sur le variant brésilien qui cherche à échapper à l'immunité. Donc, vous pouvez quand même tomber malade si jamais vous avez une sérologie positive. Et puis, mine de rien, on n'est pas tous égaux. J'ai vu une patiente ce matin, lorsque je l'ai vaccinée, elle avait 70 ans et elle a eu le coronavirus avec simplement la perte de l'odorat. Et pourtant, elle avait des anticorps au plafond.
Ah oui.
Alors que j'ai d'autres patients qui ont des formes un peu plus sévères et qui ont rapidement perdu les anticorps. Ce qu'on peut dire, c'est que les enfants, normalement, ont deux fois plus d'anticorps que les adolescents et les adolescents ont deux fois plus d'anticorps que les adultes. Mais il y a une grande variabilité individuelle. C'est pour ça qu'on met de grandes règles et peut-être qu'on se trompe un petit peu et qu'on essaie d'adapter au cas par cas par la suite.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier du jour dans lequel on va vous détailler les liens entre alimentation et maladies inflammatoires chroniques. Si vous souffrez de psoriasis, d'une maladie de Crohn ou encore d'une polyarthrite rhumatoïde, y a-t-il des aliments à bannir ou un régime particulier à suivre? Comment manger sans s'enflammer? On va tout vous expliquer, restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Laurent Perrin-Biroulet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de gastro-entérologie au CHRU de Nancy. Et avec vous, donc, on va décrypter aujourd'hui les liens entre alimentation et maladies inflammatoires. Des maladies comme le psoriasis, je dis l'hémiki, mais c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou encore la polyarthrite rhumatoïde, parce qu'on va se mettre d'abord du côté des patients, eux, ils sont nombreux, à être convaincus que ce qu'ils mettent dans leur assiette joue un rôle dans leur maladie. Vous le sentez, cette préoccupation en consultation? C'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent?
C'est vrai que pour l'instant, on ne connaît pas encore la cause de ces maladies. On sait que ce n'est pas des maladies génétiques. Ça, maintenant, on en est convaincu. L'épigénétique a été écartée. C'est une petite susceptibilité. Ça augmente le risque de développer maladie, mais c'est qu'une petite partie. Et c'est vrai que tout se tourne de façon très évidente, je dirais, vers notre assiette. Ce qui se passe dans notre assiette. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies des pays riches. Et puis que quand on voit que le pays, on va dire, qui est un pays plutôt pauvre, change, s'industrialise et commence à manger un peu, on va dire, la nourriture moderne telle que les fast-foods, eh ben on voit ces maladies qui vont exploser en termes de fréquence.
Alors justement, pour davantage d'infos sur le sujet, je signale un site qui vient de voir le jour, co-réalisé par le laboratoire Fresenius Kabi et les associations de patients Andar, AFA et France Psoriasis. Ça s'appelle mangersanssenflammer.fr.
Alors professeur, on va revenir à la base. Pour ceux qui ne sont pas concernés, ce n'est pas forcément facile à comprendre. C'est quoi une maladie inflammatoire?
Alors une maladie inflammatoire, c'est en fait l'organisme qui va réagir de manière anormale contre un de nos organes. Ça peut être la peau, ça peut être l'articulation, ça peut être l'intestin. Et en fait, alors que normalement, il y a un état d'équilibre, ce qu'on appelle une tolérance immunitaire, et bien tout à coup, les défenses immunitaires vont s'emballer pour des raisons qui ne sont pas toujours connues. Et là, il va créer de l'inflammation qui va être de l'inflammation anormale, alors qu'en fait, l'organisme est encore dans un état, on va dire, où il n'y a pas d'anomalie évidente.
Les maladies inflammatoires chroniques, parce que donc là, on englobe un peu tout, ça concerne le psoriasis, les myquimes, donc maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde. Combien de patients au total, à peu près hein,
On peut estimer, quand on met tout ensemble, à peu près un Français sur 10, soit à peu près 6 millions de Français qui sont atteints de ces maladies inflammatoires.
Quand même, c'est énorme.
Et on a l'impression que ces maladies sont de plus en plus fréquentes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on sait pourquoi elles sont de plus en plus fréquentes?
Alors, c'est une question intéressante, puisqu'on voit quand même régulièrement dans les pays industrialisés une augmentation. Ça continue à augmenter. Alors, il y a eu une explosion, on le voit quand les pays, on va dire, s'industrialisent, deviennent plus riches. Là, maintenant, c'est une augmentation progressive, constante, mais ce n'est plus une véritable explosion. On a longtemps cru que c'était parce qu'on les diagnostiquait mieux. Non, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, je dis toujours, hein, il y a 20 ans, quand vous disiez à quelqu'un, je connais un patient qui a une maladie de Crohn, c'était plutôt rare. Et maintenant, on a l'impression que dans l'entourage ou quand on en parle, tout le monde connaît quelqu'un qui va avoir, par exemple, une maladie de Crohn.
En tout cas, il n'y a pas d'explosion. Ça nous rassure quand même. Est-ce que certains patients, vous en voyez régulièrement en consultation, même cumulent plusieurs maladies inflammatoires, souffrent, je ne sais pas, d'un Crohn et d'un psoriasis, oui?
Oui, il y a des familles comme ça et puis il y a aussi des patients comme ça. C'est ce qu'on appelle une ambiance auto-immune ou inflammatoire. Ce sont des patients qui vont avoir une maladie articulaire, une spondylarthrite ankylosante, ils vont avoir un psoriasis et puis une maladie de Crohn. C'est pas si rare que ça, parce que par exemple, quand on prend les maladies inflammatoires de l'intestin, il y a près d'un patient sur deux qui va avoir des autres organes atteints.
Ah oui.
Et puis, il y a une association chez environ un patient sur trois.
Quand même, c'est des chiffres importants.
Et est-ce qu'on sait pourquoi tel ou tel patient va avoir une maladie et d'autres pas? Est-ce qu'on a des facteurs qui pourraient la déclencher ou la favoriser? Alors, vous l'avez dit, la piste génétique, on met un petit peu de côté. Mais est-ce que dans l'environnement, il y aurait peut-être des choses qui nous rendraient malades?
Le problème, c'est que ça revient à rechercher une aiguille dans une botte de foin. Et qu'on voit des associations. C'est-à-dire qu'on sait que quand on mange plus ça, on a plus tendance à avoir la maladie. Mais dès qu'on veut avoir un lien causal, comme on n'a pas les bons modèles pour y arriver, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver l'agent causal. Alors, ce n'est pas comme l'hépatite C, où par exemple, il y a un virus qui va donner le problème, ou la Covid. Mais ce qu'on est convaincu maintenant, c'est qu'il y a plein d'agents différents. L'environnement, l'alimentation, peut-être aussi le défaut d'exercice physique. Mais en tout cas, on sait que ce sont des maladies complexes avec plusieurs agents mis en cause, mais qu'on n'arrive pas pour l'instant à identifier, malheureusement.
Est-ce que l'alimentation, ou plutôt une mauvaise alimentation, parce que vous l'avez dit, les pays riches où on mange des fast-foods, ça a explosé à un moment donné, puis ceux qui s'y mettent, ça explose à un moment. Est-ce que ça peut causer vraiment certaines maladies inflammatoires?
Oui, disons qu'il y a plusieurs choses. Maintenant, des études qui ont été, on va dire, bien validées ou qui ont été montrées à plusieurs reprises dans différents pays, où vraiment maintenant on a des données assez robustes. On sait, il y a par exemple la viande rouge, un excès de viande rouge est associé à la rectocolite hémorragique. Et puis, il y a deux choses, bien entendu, c'est l'industrie agroalimentaire.
Ils ont fait
les produits transformés, ultra transformés, moins de fibres, plus de graisses saturées, plus de mauvais sucres et de sucres cachés. Et ça, clairement, ça a contribué à l'explosion de ces maladies.
Et pourquoi? Parce que ça perturbe aussi le microbiote. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs ce que c'est que ce microbiote?
Oui, le microbiote intestinal, alors on a souvent focalisé sur les bactéries, c'est pas que ça, il y a aussi des parasites, il y a des virus, il y a aussi des champignons, c'est quatre choses différentes qui sont d'ailleurs toutes intimement liées. Il y a 100 000 milliards de bactéries dans ce microbiote qui va peser à peu près 2 kilos, c'est un véritable organe. Et ce microbiote, à chaque fois qu'il va avoir une agression extérieure, il va être modifié. Vous ne mangez pas assez de fibres, il y a plein de mauvaises bactéries qui vont proliférer. Vous ne faites pas assez d'exercice physique, les bonnes bactéries vont s'effondrer et les mauvaises bactéries vont prendre le dessus.
Mais est-ce que ce microbiote perturbé, abîmé, ça peut causer directement, on n'en est peut-être pas encore là à le savoir, mais des maladies inflammatoires?
Alors c'est un peu la question à 1000 euros, je ne sais pas si c'est sur cette station ou pas, mais c'est vrai que savoir si c'est une cause ou une conséquence, on ne sait pas. À titre personnel, je trouve qu'on est quand même plutôt pour dire que c'est une conséquence de la malbouffe et de mauvaises habitudes de vie.
C'est pas elles qui causent
la
maladie.
Et après, elles vont favoriser et promouvoir, faciliter l'inflammation à différents endroits du corps.
Mais du coup, est-ce que c'est intéressé au microbiote des patients atteints de ces maladies inflammatoires? Est-ce qu'ils ont un microbiote différent des personnes saines?
Alors maintenant, on a beaucoup d'études qui l'ont démontré, que ça soit dans le diabète, dans beaucoup de maladies. On l'a aussi maintenant des études, on va dire, importante, robuste dans les maladies inflammatoires. Et on connaît des profils de bactéries et on sait qu'il leur manque notamment les bonnes bactéries. Donc tout ce qui est lactobacilles.
Ah oui.
Alors il y a une bactérie aussi qui est F-Pro. Je vais vous donner l'abréviation parce que le nom en entier est un petit peu barbare.
Non, l'abréviation, ça suffira.
Et on sait qu'il leur manque ces bactéries-là. Il leur manque ces bonnes bactéries. Et là, il y a un emballement. Et puis une étude que je vais citer parce que c'est une étude assez marrante, assez parlante. C'est une étude qui a fait beaucoup de bruit il y a un peu plus de 10 ans. Quand on n'a pas de bactéries dans l'intestin, on ne fait pas de maladie inflammatoire chronique de l'intestin.
Ah bon ?
Donc quand même, c'était une étude qui a été beaucoup discutée à l'époque, qui a fait beaucoup de bruit. Donc voilà, c'est intimement lié. Et c'est vrai que ce qu'on voudrait, c'est tout faire, notamment via l'alimentation, pour augmenter ces bonnes bactéries.
Très bien. Professeur Perrin-Béroulé, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous aujourd'hui, on vous donne un tas de conseils pour manger sans s'enflammer, que vous soyez atteint de psoriasis, d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou même d'une maladie inflammatoire rhumatismale. Cela devrait vous intéresser. On va justement passer à des choses plus pratiques. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Laurent Perrin-Biroulet. Vous êtes professeur de gastro-entérologie au CHRU de Nancy. Alors avec vous, on fait un point cet après-midi sur le lien entre alimentation et inflammation. C'est vrai que les patients atteints de ce type de maladie, je cite une nouvelle fois, le psoriasis, les Mickey, par exemple, ils s'y perdent un peu tous ces patients. Ils entendent un peu partout des conseils diététiques différents, voire même contradictoires parfois. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller d'ailleurs pour être certain déjà de trouver de l'info fiable, de l'info validée sur ça ?
Ce qu'on sait, c'est que, et c'est quelque chose dont il y avait eu beaucoup de publicité, comme vous le savez, les dernières années, c'est 5 fruits et légumes, où il y a eu une promotion exceptionnelle, notamment par le gouvernement. Et bien en fait, c'était quelque chose qui était valide et qui est très intéressant, puisqu'en fait, le fait de manger 5 fruits et légumes par jour va augmenter votre ration de fibres. C'est le gros défi pour les prochaines années. Notre taux de fibres a diminué tous les 10 ans de manière dramatique. On mange actuellement autour de 10 à 20 grammes de fibres par jour. Il faudra en manger au moins 30 à 40 grammes de fibres par jour.
Ah oui.
Donc avec ces 5 fruits et légumes, eh ben on peut y arriver. Alors il faut le faire progressivement. On ne va pas demander à toute la population, mais que tout le monde mange un peu plus de fruits et légumes.
Je pensais que c'était un peu désuet ce slogan, mais non, il est d'autant toujours aussi important.
Il est toujours d'actualité et il est vraiment important, associé bien entendu à une petite activité physique. Et puis sinon, ce qu'on sait aussi maintenant dans l'alimentation, c'est qu'il y a des mauvaises choses, comme notamment tout ce qui est graisse saturée, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, la charcuterie, le beurre, les produits laitiers, et puis l'huile de palme.
Et pour de l'info pour ces patients, je re-signale donc le site co-réalisé par les associations Andar, AFA et France Psoriasis.
Professeur, avant de rentrer dans le détail, est-ce que les patients atteints de maladies inflammatoires peuvent espérer guérir ou du moins améliorer leur maladie en modifiant ce qu'ils mettent dans leurs assiettes ?
Alors pour l'instant, ça reste difficile. Il y a beaucoup d'essais cliniques et d'études cliniques qui sont en cours pour essayer d'identifier un régime anti-inflammatoire. Pour l'instant, on n'a pas pu vraiment l'identifier. Donc la règle, c'est en dehors des poussées, vous mangez normalement. Et puis quand il y a une poussée sévère, peut-être qu'on en reparlera. À ce moment-là, on fait tout pour un peu diminuer les douleurs au ventre et puis la diarrhée. Mais clairement, pour l'instant, on n'a pas trouvé le régime anti-inflammatoire miracle, même si on y croit.
Donc il n'y a pas un régime miracle qui, comme ça, en une semaine, va régler une maladie de Crohn, par exemple. Mais ce sont peut-être des habitudes alimentaires qu'il faut changer au long cours, surtout. Parce que bon, on imagine bien que le régime méditerranéen, par exemple, dans lequel il y a plein de fruits et légumes, de la bonne huile d'olive, des oléagineux, il doit être bien, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire une semaine. C'est des effets, on les verra sur le long terme.
Alors c'est aussi un des gros challenges, c'est l'observance de ces traitements, l'adhésion du patient, parce que quand il va le faire sur une semaine, ça pourra peut-être avoir un effet, mais ces régimes anti-inflammatoires qui commencent à voir le jour, c'est vrai qu'il va falloir les maintenir sur des mois et des années, convaincre le patient, en discuter avec lui. C'est donc un autre challenge qu'on va avoir dans notre pratique quotidienne.
Alors vous dites qu'il n'y a pas de régime miracle, mais on entend tel ou tel patient, et parfois même écrire des livres sur le changement de régime qui a changé leur vie et qui finalement, du jour au lendemain, avait par exemple une maladie de Crohn qui était
j'ai
mal équilibrée.
J'ai arrêté le gluten et hop, c'est gagné.
Ça y est, c'est miracle. Et c'est vrai que c'est vendeur et on a envie de guérir sans médicaments, mais qui croire ?
Alors c'est un débat très important parce que ce qu'on connaît et ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que ces régimes qu'on va faire parfois vont soulager le patient. Mais en fait, il n'y a pas d'étude qui a montré que ça changeait l'inflammation intestinale. Ah, c'est-à-dire que le patient va avoir un peu moins mal au ventre, un peu moins de diarrhée, va se sentir mieux, mais ça ne joue pas sur l'inflammation de l'intestin et l'évolution de l'intestin. C'est juste qu'il y aura un peu moins de symptômes. Et puis aussi, il faut le dire, il y a un effet placebo. C'est-à-dire que même si le patient avait continué un régime normal, mais qu'on lui avait dit c'est un régime qui diminue l'inflammation, parfois ça peut marcher.
Est-ce qu'il y a quand même des aliments, parce que vous avez cité tout à l'heure la viande rouge ou les sucres, qui favorisent, et ça on le sait de manière prouvée, scientifique, qui favorisent l'inflammation dans l'organisme ?
Oui, il y a plusieurs choses. Donc il y a en gros deux catégories. Il y a les graisses saturées qui, encore une fois, sont favorisées par l'agroalimentaire et qui ont très nettement augmenté. Et puis il y a aussi les graisses qu'on appelle trans. Tout ce qu'on voit pour augmenter, on va dire, avoir une meilleure texture des aliments, ça c'est une catastrophe. Et puis il y a la deuxième catégorie, qui sont tous ces sucres cachés, qui sont catastrophiques, que ça soit dans les bonbons ou autres.
Donc et les gens qui ont un psoriasis, une polyarthrite rhumatoïde, ils doivent les éviter quand même.
Oui, ouais. Ils doivent les éviter parce que tout ça, c'est quand même des molécules qui sont pro-inflammatoires.
Et justement, vous avez réalisé une étude passionnante sur des souris saines et de l'impact du sucre sur leur tube digestif. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, ce sont des résultats qui ne sont pas encore dans le domaine public, mais on a pris des souris qui avaient un intestin sain et on leur a donné un peu plus de sucre que la normale, avec aussi un régime standard. Et quand on a rajouté ce sucre, au début, on n'a rien vu.
Et pas beaucoup de sucre, hein, un tout petit peu plus que la moyenne.
Un tout petit peu plus que la moyenne. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a rien vu les premiers jours. Puis on a attendu. Et au bout de 8 semaines chez la souris, ce qui en fait plusieurs mois chez l'homme, et ben l'intestin, quand on a regardé avec une caméra, on a vu qu'il y avait de l'inflammation de l'intestin qui apparaissait, qui commençait à détruire l'intestin.
Alors, on n'est peut-être pas des souris, mais en tout cas, ça donne déjà une piste
effectivement, à confirmer chez l'homme.
Exactement. Et ça, est-ce que c'est valable chez tous les patients ou surtout pour les patients atteints de maladies chroniques inflammatoires? Parce que là, vous venez de dire les souris saines, donc on peut imaginer que des gens sains, s'ils mangent trop de sucre, ils vont avoir des problèmes d'intestin aussi.
Disons qu'il y a plusieurs choses. Je pense que le sucre, c'est comme tout, il faut un équilibre chez ces patients.
Manger quelques fruits, bon.
Voilà, exactement. Et il faut quand même continuer à apporter des fibres. Donc, c'est important de manger encore des fruits crus. Ça peut être des fruits un peu plus cuits si on les tolère moins bien. Ça, c'est une règle de base. On va les cuire ou faire un peu, on va dire, des compotes hein, qui vont être parfois un petit peu moins, mieux tolérés, un peu moins irritants. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on regarde tous ces régimes-là, chez ces patients-là, on doit les rassurer. Et puis surtout, on se bat au quotidien contre ces régimes d'exclusion restrictifs.
Cétogène, sans gluten.
Qui créent des carences. Le régime sans gluten, ça n'a rien prouvé dans les maladies inflammatoires. Et donc ça, il faut vraiment lutter parce qu'on voit des carences qui apparaissent et des catastrophes chez nos patients.
Et comment est-ce qu'on fait concrètement pour savoir si on a de l'inflammation? On parle de ça depuis tout à l'heure, mais...
Oui, pour vous et moi, par exemple, il y a un moyen de le savoir ou pas?
Il y a un moyen très très simple, si je parle plutôt de l'inflammation intestinale que je connais mieux. Il y a un test exceptionnel qui a été mis sur le marché, malheureusement qui est encore payant, qui coûte 50 €, qui est disponible dans tous les laboratoires. Vous allez faire ce qu'on appelle une calprotectine fécale et immédiatement on vous dit s'il y a de l'inflammation de l'intestin
ou bien,
pas.
Super astuce. Merci professeur Perrin-Birolet. Ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant et on va continuer à vous guider vers une alimentation qui réduit l'inflammation, particulièrement chez ces patients qui souffrent de maladies chroniques inflammatoires. Quels sont les aliments à privilégier? Peut-on éviter ou espacer les poussées grâce à ce que l'on met dans son assiette? On vous dit tout très vite, restez sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, professeur Laurent Perrin-Birolet. Vous êtes professeur de gastro-entérologie au CHRU de Nancy. Alors à présent, professeur, on va s'intéresser plus particulièrement aux patients que vous connaissez bien, que vous prenez en charge tous les jours, qui ont une MICI, une maladie inflammatoire chronique, comme la maladie de Crohn par exemple, ou la rectocolite hémorragique. Au moment du diagnostic, est-ce que ce qu'ils mangent vous intéresse, vous, médecin?
Oui, c'est intéressant parce qu'il faut aussi rassurer les patients. C'est-à-dire que les patients vont vous dire « quand je mange ça, je ne me sens pas bien, j'ai mal au ventre ». Alors, il ne faut pas les forcer. Il y a des aliments que les gens ne tolèrent pas. Il y a une tolérance individuelle.
On a beaucoup de questions, hein, nous, ici, sur le répondeur, le 3921. On a eu des questions en disant « je mange du fromage à chaque fois j'ai une crise, je mange si... » C'est vraiment fréquent. Hein.
Alors, il faut faire attention à deux choses. Il peut y avoir des intolérances alimentaires, mais tous ces tests qui ont été faits en laboratoire, on sait, ne sont pas bons. Donc, il faut un vrai bilan d'allergie alimentaire dans des centres spécialisés. Ça, c'est le premier message avant d'étiqueter le patient comme allergie alimentaire. Tout le monde peut avoir un peu des intolérances, des aliments qu'il tolère moins. Il ne faut pas forcer, ils ne les prendront pas parce que voilà, ils ne tolèrent pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans l'immense majorité des cas, c'est un ressenti et que clairement, ça ne crée pas d'inflammation intestinale. Donc parfois, les rassurer, réintroduire. Moi, je me rappelle un patient qui me disait qu'il mangeait que des pâtes depuis 10 ans. Voilà. Je lui ai dit non, mais remangez normalement petit à petit. Et il était ravi. Je l'ai revu 6 mois après. Il m'a dit ah, merci, professeur, je peux à nouveau manger normalement. Vous avez changé ma vie.
Ah oui, okay. Des pâtes pendant 10 ans, vous avez dû le changer, effectivement.
Ah, c'est que là, j'imagine la triste absurde.
On aime les pâtes, mais pendant 10 ans, c'est
il a fait venir sa femme pour que je lui dise en face, parce qu'elle lui faisait
des légumes
à sous différentes recettes. Et il m'a dit dites-le à ma femme que j'ai le droit de manger autre chose.
Oh, génial.
Vous réglez les problèmes de couple aussi, c'est génial. Alors, vous l'avez dit, pas de régime miracle, mais vous avez aussi dit qu'en période de poussée, il faut adapter son régime. Mais du coup, qu'est-ce qu'on mange quand on a une crise, par exemple de maladie de Crohn ou d'une spondylarthrite ankylosante? Est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent améliorer le quotidien?
Non, quand même, quand il y a une poussée importante pour diminuer les douleurs abdominales et les diarrhées, il faut vraiment adopter ce qu'on appelle un régime sans résidus. C'est le fameux régime qu'on prend 3 jours avant de faire une coloscopie pour faciliter la purge, pour ceux qui ont déjà eu une coloscopie. Donc, c'est viande maigre, poisson maigre, pas de fruits crus, pas de légumes crus, et puis éviter tout ce qui est céréales, notamment les céréales complètes. Mais attention, ça c'est uniquement quand il y a des grosses douleurs abdominales et
quand
des diarrhées.
Quand il y a la poussée, ce qu'on appelle la poussée.
Quelques
c'est quoi
jours.
Une poussée de maladie inflammatoire justement?
Poussée, ça se manifeste par deux choses. Donc des douleurs abdominales qui vont être en recrudescence, qui sont importantes. Des diarrhées, plus de 3 selles par jour, liquides, qui deviennent invalidantes.
Ceux qui souffrent de maladies Crohn ou de rectocolite,
voilà. Et puis idéalement, nous, on l'objectif avec une inflammation, soit par la fameuse calprotectine fécale, soit par une inflammation dans le sang.
Alors vous l'avez dit, pas de légumes crus, pas de fruits crus, mais ça veut dire quoi? Parce qu'on a tendance à se dire, on va manger une salade, ça va être bon pour le tube digestif, et bien finalement, ce serait contre-productif de faire,
pendant la poussée.
Alors, pendant la poussée, mais quelques jours. C'est-à-dire que nous, on va débuter en parallèle des corticoïdes ou un autre traitement. Dès que ça s'améliore, dès que les symptômes s'améliorent, on reprend progressivement une alimentation normale. Et pour les fruits et légumes, par exemple, on peut repasser par l'étape un petit peu compote qui facilite les choses. Et puis progressivement et très rapidement reprendre une alimentation normale.
Oui, donc c'est 2-3 jours, hein, pas plus ce régime sans résidus. Voilà, une semaine, admettons, mais pas plus.
Voilà, exactement. Le temps d'avoir quand le patient a les symptômes qui sont au pic et très invalidants.
D'accord. Certains patients atteints de MICI, donc de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou même d'autres maladies inflammatoires chroniques, sont tentés de prendre toutes sortes de compléments alimentaires en libre-service pour améliorer leur état. Hein. On en trouve partout en pharmacie, même sur Internet. Ils se disent, bon, c'est naturel et donc au pire, c'est pas bien grave. Qu'en pensez-vous?
Alors, les compléments alimentaires, les probiotiques, toutes ces choses-là, bon, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon scientifique de dire qu'il n'y a actuellement aucune preuve pour les recommander. Et puis, en vieillissant, moi je vois, il y a 10 ans, je leur
disais
non,
surtout
pas.
Vous devenez plus souple, j'ai l'impression.
Voilà, on devient plus souple, et puis je leur dis, écoutez, si
allez,
on leur dit...
un petit peu d'herbe, de machin, pourquoi pas.
Oui, et si on leur dit tout le temps non, ils vont vouloir quand même tester, et puis se convaincre que ça ne marche pas. Donc on leur donne le conseil, et puis s'ils essayent, ils vont voir de même que sur l'inflammation, souvent, ça ne suffit pas.
Le curcuma, il y a plein de choses qui circulent.
Alors le curcuma, il y a eu une grosse étude qui vient de sortir dans la maladie de Crohn, qui est totalement négative. Oui. Chez la souris, ça diminue un petit peu l'inflammation, mais chez l'homme, pour l'instant, aucune preuve.
Alors c'est marrant, vous mettez sur le même plan les compléments alimentaires et les probiotiques. Pourtant, dans la première partie de l'émission, on a parlé de l'impact du microbiote et on aurait tendance à se dire, si j'ai un microbiote perturbé, je vais prendre des probiotiques pour rééquilibrer les choses. Ouais. Souvent, on propose ça aux patients, le pharmacien le fait aussi.
Oui, parce que en fait, ce sont des approches non ciblées qui ne sont pas assez puissantes et qu'il faut aussi maintenir sur le long cours et donner un peu comme ça des probiotiques à l'aveugle.
Rappelez-nous ce que sont les probiotiques, justement.
Les probiotiques, c'est justement des bactéries qui sont censées donner un bien-être pour le patient.
Qu'on va prendre en gélule ou
en gélule. Alors, il y en a plein. Il y a plein de formules. C'est un gros marché. Pour l'instant, clairement, ça n'a pas montré le bénéfice, à part peut-être chez la diarrhée du nourrisson. Ça, c'est vrai que c'est une bonne indication.
C'est vrai que les pédiatres en prescrivent quand
c'est
il y a
une
des
bonne
gastro,
indication. Ouais. Tout le reste en hépatogastroentérologie, dans notre domaine, sur le plan digestif, ça n'a rien démontré. Pourquoi? Parce que vous mettez un petit peu de bactéries là, c'est non spécifique. Il faut que maintenant, on aille vers des approches ciblées. Il faut qu'on sache ce qui manque au patient pour lui administrer ce qu'il faut et non plus des produits comme ça à l'aveugle.
Mais du coup, du côté de l'alimentation, est-ce qu'on peut un peu chouchouter le microbiote avec des probiotiques
alors
pas naturels, mais
prébiotiques,
voilà,
du prébiotiques coup, c'est
dans
ça,
ces
ouais.
cas-là?
Les prébiotiques, oui. Les probiotiques, oui. C'est-à-dire, c'est apporter plus de fibres. Donc là, on revient à nos 5 fruits et légumes. C'est ce qu'on appelle des prébiotiques.
Et là, vous dites quand même à des gens qui ont parfois des diarrhées régulières, etc., de manger plein de fibres. Quoi.
Ah bah,
gros, c'est
oui,
ça.
Oui. Ouais. Alors progressivement, hein, si on n'en mange pas beaucoup parce que ça va ballonner et ça va donner de la diarrhée. Faites attention, si on augmente en fibres et qu'ils vont passer en 24 heures d'un régime très pauvre en fibres, ça va être très mal toléré sur le plan digestif et ils vont l'abandonner.
Donc vos patients Crohn, à qui vous demandez de manger des légumes, ils vont mieux après.
Ouais, et on vaut mieux. Et au long cours, on sait que ça va avoir un effet très bénéfique. Pourquoi? Parce que les bonnes bactéries qui servent à maintenir, à contrôler les mauvaises bactéries et à leur dire « restez calme », etc. Et puis aussi pour digérer les aliments, pour digérer les graisses, tout ça, eh ben ça va avoir un effet exceptionnel sur l'intestin, mais aussi sur tout l'organisme.
Mais du coup, vous dites, on fait ça à l'aveugle. Si on fait les probiotiques à l'aveugle, ça ne sert à rien parce qu'on ne sait pas ce qui manque. Alors justement, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher ce qui manque et faire tous des analyses de sel? Il y a quelques sociétés qui le proposent justement à prix d'or quand même aujourd'hui. Ce n'est pas remboursé. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire tester son caca, quoi, en gros, hein?
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'indication. Mais j'espère que dans quelques années, je me trompe et qu'on va y arriver. Et il y a des premières études qui arrivent. On prend, en fait, on va regarder le microbiote du patient. Et en fonction de ce qui lui manque, eh ben on va boucher ses trous ou lui apporter les bonnes bactéries qu'il faut en trouvant le bon donneur. Parce qu'aussi, il y a la question du bon donneur.
Du bon donneur de caca, c'est de ça
qu'on
parle.
Du bon donneur de caca, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais que vous avez un trésor dans votre intestin. Et il y a un patient récemment, dans une étude clinique, il a guéri tout le monde. Il a donné ses selles, son caca.
C'est ce que vous appelez le caca d'or. Hein. Vous m'avez parlé de ça en préparant l'émission.
Le caca d'or, c'est-à-dire qu'il a en lui un véritable trésor. Il a guéri tous les patients. C'est-à-dire que quand les patients qui avaient une maladie inflammatoire de l'intestin, on l'a administré, son caca, boum, l'inflammation est partie.
C'est incroyable, hein, le caca d'or, Jimmy, on ne sait pas, peut-être on a tous un trésor dans nos intestins.
Je vous le souhaite. C'est pas ragoûtant, mais du coup, comment est-ce qu'on transmet du caca d'or? Vous expliquez comment
oui,
se passe
la transplantation. Oui, mais vous amusez pas chez vous, surtout, hein, c'est quelque chose
non.
De codifié quand même. Hein.
Alors justement, à l'heure actuelle, comme on ne sait pas, ce qu'on prend, c'est qu'on prend plusieurs donneurs à l'aveugle, on fait un mélange, je vous passe les détails, et puis on l'administre en lavement aux patients.
D'accord.
Mais justement, ce qu'on veut, ce sont des approches ciblées, personnalisées, et ce dont on rêve, c'est très simple, c'est de connaître le microbiote du patient, savoir ce qui lui manque, et lui trouver son bon donneur, peut-être un peu comme des greffes ou autres, et à ce moment-là, ça va être le couple parfait, et l'intestin va aller mieux, mais aussi tout le reste, ça peut corriger le diabète, les problèmes d'obésité et d'autres maladies.
Mais bon, ça c'est l'avenir, et encore, on n'en est pas là tout de suite. Hein, c'est
j'espère
ça.
Qu'on va y arriver le plus rapidement possible.
Très bien, merci beaucoup professeur Perrin Biroulé d'avoir été avec nous cet après-midi. Et donc pour en savoir davantage, je rappelle ce site internet qui contient des informations pour les patients atteints de maladies chroniques inflammatoires, mangersanssenflammer.fr. Merci encore professeur.
Merci.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien, focus cet après-midi sur un accident redoutable chez ces messieurs, la torsion testiculaire. Quels sont les symptômes? Que faut-il faire? Si cela arrive, le docteur Jimmy Mohamed va tout nous expliquer en douceur, c'est promis. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h à présent. On va passer à notre séquence, les bobos du quotidien. Focus sur la torsion testiculaire. Savez-vous dans quelles circonstances cet accident peut-il survenir? Est-ce quelque chose de fréquent, de douloureux? Bon, ça, on l'imagine à peu près. Que faut-il faire dans l'urgence? Qui consulter? Notre journaliste Barbara Silvera Sonigo a été courageuse, a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
La torsion testiculaire,
c'est un testicule qui s'est tordu, qui s'est enroulé en lui-même.
Comme une entorse, quoi, mais au testicule.
Je pense que c'est plus à l'intérieur.
La sensation, ça serait une douleur intense et vif.
Peut-être en faisant un geste inhabituel ou mal fait.
Les jeunes garçons peuvent avoir les testicules qui remontent. C'est peut-être à ce moment-là qu'elles ont peut-être un risque de se tordre.
Peut-être elles se coincent pendant un rapport.
Peut-être qu'en tombant dessus.
Des nerfs qui se coincent au moment de l'acte.
Peut-être en portant des choses trop serrées.
Je pense que ça se règle facilement.
Ça pourrait avoir peut-être une action sur la fertilité.
Peut-être de ne pas pouvoir avoir d'enfant, d'être stérile.
Et peut-être, dans les cas extrêmes, entraîner une nécrose des tissus.
Eh ben dis donc, il y a des bonnes choses hein, quand même dans ce micro-trottoir. Ouais. Alors, les caleçons serrés ne provoquent pas de torsion testiculaire. On va voir ça, Jimmy.
Enfin, vous êtes expert,
Mélanie. Ouais, non, vous allez confirmer ou pas. Mais Jimmy, rien que de le dire, hein, déjà, torsion testiculaire, ça fait un petit peu mal. Bon, à moi, ça va, mais je pense que ces messieurs sont un petit peu tendus tout d'un coup. C'est quoi quand ça arrive, dans quelles circonstances concrètement?
Alors, Mélanie, je pense que vous avez déjà palpé des testicules. Vous avez vu qu'ils sont mobiles et qu'ils bougent sur eux-mêmes. Et dans un certain nombre de cas, eh bien, ils ne vont pas être fixés correctement.
Ouais.
Et lors d'un effort physique, ça peut être un rapport sexuel, ça peut être de la course, ça peut être du cheval, eh bien, le testicule va se tourner sur lui-même, il va s'enrouler et vous allez avoir les artères, les vaisseaux et le cordon spermatique qui vont être bloqués. Et à ce moment-là, il va y avoir la torsion du testicule responsable de cette douleur horrible.
Alors, j'allais vous dire, on ne peut pas passer à côté, ça fait très très mal, quoi qu'il en soit, toujours. Enfin, je sais pas.
C'est une des caractéristiques. Normalement, la douleur est d'emblée maximum. On a vraiment très mal au testicule et puis on va avoir un testicule qui va changer d'aspect, il va être ascensionné, c'est-à-dire qu'il va remonter vers le haut, il va devenir rouge, inflammatoire, quasi impossible à examiner. Mais dans un certain nombre de cas, notamment chez l'adolescent, eh bien parfois il peut y avoir des torsions partielles. C'est-à-dire que le testicule...
Ça va peut-être un peu moins mal si c'est partiel.
Eh oui, parce que ça va se tordre et ça va se détordre. Il va y avoir pas un vrai tour de spire, mais quasiment un demi-tour. Et ça va se remettre dans l'ordre. Mais le problème, c'est que vous êtes exposé à un risque de récidive. Et donc, si jamais un jour... votre adolescent vous parle de douleurs testiculaires, eh bien évidemment qu'il faut consulter en urgence.
D'accord, alors que ce soit un demi-tour ou un tour complet, c'est une urgence, Jimmy, il ne faut pas trop attendre. Hein, je
c'est
crois.
Une urgence ouais. chirurgicale absolue. Si jamais on prend le testicule en charge dans les 6 heures, vous avez entre 80 et 100% de sauver le testicule, puisque je vous ai dit que lorsque le testicule va tourner sur lui-même, les artères vont aussi bloquer
oui,
l'irrigation
le sang
du sang
plus, bien sûr.
Et le testicule va nécroser. Si vous attendez 12 à 24 heures, eh bien le taux de survie du testicule eh bien, il passe à 0%. Ça veut dire que si on n'agit pas,
on
le testicule va mourir. Et à l'inverse,
oui,
si on le prend en charge correctement, eh bien on va le sauver.
Et comment ça se passe? On ouvre le testicule pour opérer? Enfin, comment vous faites ce geste-là?
Parfois, il est possible de détordre le testicule aux urgences sans passer par la case chirurgie. Car ce qui va se passer, c'est que normalement, le testicule est impossible à examiner.
Vous en avez détordu, je crois, d'ailleurs.
C'est arrivé exactement chez un jeune adolescent. Mais parfois, c'est impossible. Et dans ces cas-là, on fait une anesthésie générale. Ça va détendre les muscles du patient. Et le chirurgien, il va le détendre manuellement. Finalement, il va remettre les boules en place. Et ensuite, il va le fixer. Puisque je vous avais dit que le testicule va devoir être fixé correctement. médicament et il va examiner l'autre testicule pour être sûr qu'il n'y a pas un risque de récidive et le refixer correctement.
Bon, et en général, après, ça se passe bien. Si on a pris ça dans les temps, on a compris que la fenêtre était assez courte, mais les suites sont correctes, on pourra avoir
des bébés.
Les
suites sont simples, on peut avoir des enfants, car le but, c'est de préserver la fertilité et la fonction sexuelle aussi.
Je redis quand même une fois, attention vraiment aux ados, parce que je crois que ça vous est arrivé en consultation. Un adolescent, vous veniez en consultation à domicile, on vous avait pas du tout dit que c'était ce motif-là. Ils osent pas en parler, les gamins.
Ils parlent d'une vague douleur abdominale.
Vous étiez arrivé chez un patient comme ça.
Exactement, jeune adolescent, je dis, mais t'as mal où ? C'est aux boules, oui, bah montre-moi tes boules. Et à ce moment-là, j'ai vu que le testicule n'était pas normal, je lui ai remis en place, et puis tout allait bien. Mais imaginez s'il avait laissé traîner pendant de nombreuses heures, et bien son
il
testicule...
Il n'avait pas osé le dire à ses parents d'ailleurs.
Hein, alors qu'il faut se lever le soldat testicule, ne l'oubliez pas.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions et ces conseils, plus qu'utiles, vraiment.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout. Car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc, la sexo. Juste après un peu de musique avec Bruno Mars, The Lazy Song. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette ultime séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio tout de suite. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question d'Océane, 19 ans, je vous la lis. Alors moi, je n'ai pas vraiment de culture sexuelle, c'était un peu tabou à la maison. Je n'en ai jamais parlé avec mes parents, mais aujourd'hui, j'ai du mal à avoir des relations sexuelles ou trouver l'amour. Je me dis que c'est peut-être à cause de ça. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, est-ce que vous pensez que de pas... Elle n'a que 19 ans cette jeune fille, je me dis, elle se pose déjà beaucoup de questions la pauvre, alors que tout est à faire encore et son histoire est devant elle. Ça peut être lié à 19 ans, avoir des difficultés, même si c'est très tôt, très jeune encore, à dire c'est peut-être lié à mon éducation, enfin à mon non-éducation.
Alors en fait, c'est ça qui est très touchant, c'est qu'on entend ça et son contraire. C'est-à-dire, ma sexualité est encombrée parce que mes parents étaient...
Coincés, ou étaient
au contraire exhibitionnistes, naturistes, ils parlaient de sexualité et tout ça m'a fait violence. Ou au contraire, mes parents n'en parlant pas, c'était tabou et du coup, ma sexualité est encombrée. Une fois pour toutes, disons-nous que la sexualité, nous ne l'apprenons pas avec des mots ou avec des planches d'explication et encore moins avec la pornographie qui est sans embâge. Mais plutôt, c'est déjà dans l'accueil que l'on a de soi, dans la compréhension que nous avons des liens. Alors bien sûr, les liens de nos parents entre eux posent aussi la question des possibles et des impossibles, de la domination de l'un sur l'autre, le cas échéant, et puis aussi de la relation que nous établissons avec nos parents. Et évidemment que si dans nos élans amoureux pour nos parents, on est arrêté ou dans notre découverte de notre féminité ou masculinité, dans notre façon de nous habiller, de nous comporter, on est jugé, évidemment que tous ces trucs négatifs vont alimenter l'idée d'une sexualité difficile. Mais sinon, assez naturellement, les êtres humains vont vers ça. Sauf qu'elle parle d'éducation sexuelle, de culture sexuelle, dans un monde où, elle, puisqu'elle a 19 ans, il n'y a que de la culture, voire de la désinformation par l'abondance des informations de sexualité. C'est comme si elle s'évaluait, elle, par rapport à ses pairs, elle s'évaluait en vide de connaissances quand elle voit qu'autour d'elle, tout le monde a déjà...
Trop de connaissances.
Voilà. Et du coup, elle croit qu'elle est nulle à cause de ça, alors qu'elle est... Elle est en difficulté parce qu'elle a 19 ans, qu'elle a ses pudeurs et que, évidemment, c'est avec ses pudeurs qu'elle va devoir démarrer la sexualité comme chacun d'entre nous.
Oui, parce que ça paraît étrange comme lien. Je ne sais pas, Mélanie, vous avez une culture sexuelle, vous ?
Non, pas particulièrement.
Moi non plus, et pour autant.
Parler un peu de contraception, quoi.
Mais
c'est tout.
Mais de se dire qu'à cause de ça, je n'ai pas de relation sexuelle ni trouver l'amour. Le lien, il n'est pas tout à fait évident et on cherche
c'est
le problème.
C'est bizarre d'en vouloir à ses parents
ouais,
pour
pourquoi
ça.
Pourquoi est-ce qu'on
quoi,
en veut à ses parents ? Il y a un truc, je ne sais pas incestueux, mais un peu un truc étrange, non ?
Non, alors ce n'est pas incestueux, mais c'est effectivement, ça veut dire qu'elle rencontre d'autres choses que le sujet de la sexualité, puisque d'ailleurs elle dit sexualité, puis derrière elle dit amour.
Ouais.
Je pense que c'est dans la confiance acquise dans l'amour, par l'amour de ses parents et que ce sujet-là est fragile et du coup, elle ne sait pas comment le développer et elle est plutôt dans une plainte de manque d'avoir été et aimée et nourrie, et c'est pour ça qu'elle parle de culture, comme si elle était vide, comme si elle était vide d'eux et de sa relation avec ses parents. Donc je pense que là, le sujet est moins un sujet relatif à la sexualité, mais comme, c'est un petit peu comme si à une autre époque, on disait, ben moi je suis pauvre et il y a des très riches qui ont la cuillère en argent dans la bouche.
Mais peut-être qu'elle a des amis qui, eux, ont été très informés par leurs parents. Il y a des parents cool aujourd'hui qui en parlent facilement de ces choses-là.
Mais très informé ne veut pas dire très tranquille pour les enfants. D'ailleurs, vous avez des gens qui sont très agressés par les parents qui veulent absolument les informer sur la dangerosité, mais aussi les plaisirs. Tu vas voir, tu vas t'éclater, c'est génial. Les enfants ne veulent pas que les parents nous disent que ça va être super. Sauf si on leur pose la question.
Ils découvriront tout seuls, les enfants. C'est
parce
ça.
Qu'ils ne veulent pas savoir que les parents y ont participé. Ils ne veulent pas savoir que ça a plu aux parents parce qu'ils ont peur. Si ça a plu à mes parents, et que ça me plaît, que nous partagions la même expérience, donc le même lit. Ce qui, évidemment, n'a pas lieu, c'est pas le cas, mais fantasmatiquement, c'est le cas. Donc, en fait, ce que dit Océane, merci, eh bien, c'est vraiment une histoire qui est bien au-delà de la sexualité, qui est une jeune fille qui va dans le monde avec l'idée d'avoir les poches vides, en quelque sorte, quand elle a le sentiment que les autres ont les poches pleines de compréhension et de savoir, et que c'est au nom de cela qu'elle a du mal à aimer et être aimée. Mais je crois que c'est une histoire beaucoup plus archaïque dans son lien, sa relation avec ses parents.
Bon, et puis de toute façon, c'est pas dans les films porno, ces choses-là, que les autres, c'est peut-être pour ça qu'ils ont de l'information, mais c'est pas forcément leurs parents qui leur en ont parlé, c'est pas la bonne information, on est d'accord.
C'est pas la bonne, et souvent d'ailleurs, c'est celle qui fait le plus défaut et qui fait le plus souffrance, encore une fois, sans critiquer quoi que ce soit, il faut quand même reconnaître que la plus grande des souffrances que l'on peut observer aujourd'hui chez la jeunesse, c'est la confusion et l'impossibilité de reconnaître et de faire grandir la relation parce que encombrée par cette soi-disant information sexuelle.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, ils ont détruit leurs propres œuvres. Vous vous rendez compte Mélanie, qu'est-ce que c'est que cette histoire Stéphane?
Écoutez, Marcel Pagnol, il a été contraint de détruire un film qui était en train de tourner pour ne pas se rendre collaborer avec les nazis. Camille Claudel, dans un moment de folie, elle a détruit...
Plusieurs moments de folie.
Oui. Elle a détruit plusieurs de ses œuvres dans son atelier. Et vous avez choisi un artiste, mais alors, lui, c'est très orchestré. Il détruit ses œuvres et ça vaut encore plus cher.
Oui, c'est une œuvre en particulier de Banksy, le célèbre le roi du street art, on peut le dire. Vous vous souvenez, un jour, quelqu'un a acheté un de ses tableaux et durant la vente aux enchères, ce tableau s'est auto-détruit. Évidemment, ça faisait partie de la performance artistique. Retour sur l'histoire de ce mystérieux Banksy qui est très dur à prononcer pour moi, pour des raisons qui me sont propres. Et surtout, qui est-il finalement? Parce qu'on ne le sait pas.
Bon, un très beau programme. On sera évidemment à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed. Et vous aussi, restez sur Europe 1.